Donc l'idée, c'était de parler de souveraineté alimentaire. Et évidemment, le premier maillon, c'est la production agricole. La production agricole, donc, l'enjeu, c'est de maintenir des fermes. Et pour maintenir des fermes, il faut des humains qui s'appellent des agriculteurs ou des paysans et qui sont en voie de disparition. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages hyper intéressants là, qui m'ont précédé. Et en fait, voilà, le maintien d'agriculteurs, le maintien de fermes, ce sont des histoires de territoires, de terroirs, des histoires de plantes, d'animaux, d'effervescence sauvage, de contexte pédoclimatique et puis d'hommes et de femmes. Et donc, voilà, je vais vous raconter une de ces histoires. Je ne suis arrivée sur cette ferme que tardivement par rapport à cette histoire de 7 générations de pelauquins. Donc, moi, je suis une pièce ajoutée, comment dire, rapportée. c'est une histoire très intéressante parce que très illustratrice l'histoire de l'agriculture française, qui est quand même le premier pays, la France est le premier pays agricole et qui a un poids énorme au niveau européen. Donc souveraineté alimentaire, ça nous a fait quand même un peu sourciller là, avec l'histoire du Covid, parce qu'on s'est aperçu que c'est quand même fondamental à un moment d'être souverain sur les matières principales et notamment les matières alimentaires. Donc, la ferme, vous l'avez compris, hein, c'est une ferme vraiment tournée depuis 53 ans, donc depuis la fin des années 60, vers l'agroécologie, ce qui en fait une ferme précurseur dans le paysage agricole classique. Précurseur tant pour son orientation vers l'agriculture biologique, mais aussi son orientation globale, les choix qui ont été faits progressivement. Donc, une ferme en bio depuis 53 ans, une ferme familiale qui était vraiment typique, voilà, une petite ferme qui est restée autour de 60 hectares pendant jusqu'à il y a 3 ans. Maintenant, nous avons 85 hectares, mais c'est vraiment hyper récent. Voilà, classiquement, hein, un couple qui décide de passer en bio, une ferme en polyculture élevage qui devient une ferme en polyculture. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait sur un territoire argilo-calcaire séchant, donc des terres très difficiles à cultiver, et en particulier en bio. La recherche d'alternatives, la nécessité de trouver les moyens de pérenniser cette ferme malgré le contexte difficile le contexte difficile parce que en fait cette ferme était orientée plutôt élevage au vin. Donc avec les accords du Commonwealth, là, des importations très importantes d'ovins venant de Nouvelle-Zélande. Et donc le commerce la viande ovine était vendue vraiment de manière peu rémunératrice. Et donc une orientation différente à ce moment-là de la ferme vers la polyculture. Et donc, la polyculture, l'idée, c'était, voilà, on est sur des terrains argilo-calcaires séchants, donc on se rapproche des terrains provençaux, en réalité. Et donc, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et en plus, comme on est en agriculture biologique, on est obligé de s'orienter vers des assolements dits très différenciés, une biodiversité cultivée à introduire, quel type de plantes on va chercher. Donc, vraiment un effort de recherche, d'expérimentation sur cette ferme dès le départ. Avec l'introduction, donc j'en ai parlé là dans la petite vidéo, de légumineuses non seulement prairiales, mais surtout de légumineuses à graines, qui à l'époque avaient pratiquement disparu des fermes, puisque non aidées par la politique agricole commune, qui quand même, la politique agricole commune, oriente complètement oriente complètement l'agriculture, les plantes cultivées, la manière dont on cultive, etc. Donc, culture en sec, il n'y a pas d'irrigation sur la ferme, développement des légumineuses à graines, donc en particulier les pois chiches et les lentilles sur notre ferme, introduite dans une rotation donc, avec des céréales, hein, classiquement du blé, mais en cherchant des blés adaptés à notre territoire et au mode de culture sans intrants. Également des oléagineux, donc par exemple le tournesol très inféodé à la Charente, parce que terre séchante, donc le tournesol, on le sait, il pompe complètement dans tous ses organes pour tout donner à la graine, donc une plante hyper intéressante quand on est quand on cherche la lutte contre la sécheresse. Voilà, donc alors, la ferme, c'est le centre, voilà, un petit peu. Nous sommes désormais, donc avant, hein, il y avait mon beau-père, voilà, un agriculteur, et nous sommes maintenant 4,5 personnes à travailler sur la ferme. Alors, voilà, comment ça s'est passé? L'histoire, c'est la reprise de la ferme par mon mari, et à une période clé de crise de l'agriculture biologique, donc des importations à prix cassé qui venaient haricots rouges de Chine, soit pois cassés du Canada, lentilles de Roumanie, etc. Et donc un effort, à l'époque où la ferme vendait l'ensemble de ses légumes secs en Belgique et en Allemagne, donc parce que c'était les seuls pays qui achetait bio. Donc à ce moment-là, un groupement est né, un groupement d'agriculteurs qui se sont regroupés pour valoriser collectivement leur production. Donc ça, c'est la création, il y a plus de 25 ans, d'une mini coopérative, à l'époque 5 producteurs, autour de la valorisation des légumes secs. Donc, relocalisation, en réalité, de d'une production alimentaire. Je développerai tout à l'heure. Moi, je suis arrivée. J'ai rencontré mon paysan en 2003, mais je suis vraiment arrivée sur la ferme en 2007. Et j'ai, à ce moment-là, j'ai quitté mon travail et j'ai créé un atelier de transformation des céréales produites sur la ferme en pain. Donc un outil de valorisation des productions locales sur le territoire, avec création d'emplois. Parallèlement, on s'est dit, mais c'est dommage, on a une clientèle, il y a des producteurs, des collègues qui ont besoin de vendre. Mettons en place un marché. Donc, mise en place d'un marché à la ferme, sur la ferme. L'objet subversif, c'était aussi de faire venir les citadins à la campagne et de proposer sur un même lieu des produits de qualité, bio en particulier. Voilà. Donc ça, c'est le troisième volet de la ferme. J'ai oublié très tôt, en fait, il y a eu le développement de l'accueil à la ferme, mise en place d'un camping et de gîtes. Et l'objet initial, hein, puisque la ferme est installée sur un hameau, c'était de réhabiliter le bâti ancien. Ça coûte cher, il n'y avait pas de moyens. Et donc, puisqu'on cultivait le soleil, eh bien, mes beaux-parents se sont dit, on va aussi cultiver les touristes. Voilà, donc c'est le cinquième point sur cette ferme qu'on peut dire assez ouverte aussi, parallèlement, je vous en parlerai un petit peu, mais ouverte sur l'extérieur, et ça fait la force, je pense, de cette ferme, de rester vraiment ouverte, ouverte à l'extérieur, puisque souvent en agriculture on n'a pas le temps en fait de partir du siège, donc il faut faire venir le monde à soi, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. On peut passer c'était pour vous brosser globalement ce qui se passait là, mais en fait c'est tout est décalé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous verrez, peut-être c'est un tournesol avec un pollinisateur. Ben, j'ai déjà parlé de tout là, sur la ferme, alors je pense qu'on va passer. Bon, voilà, j'avais titré, parce que l'idée, c'est l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, elle ne peut pas se faire seulement avec une terre, ou seulement avec des hommes, ou seulement avec la nature. En fait, l'agroécologie, c'est un tout, c'est une approche holistique. Et donc, c'était un peu l'idée de, voilà, de montrer que c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Qui amène à des réflexions globales et à des prises de risques, à des évolutions, qui amène à oser en fait les alternatives. Donc une ferme, voilà, des humains qui ont su diversifier, valoriser et surtout faire réseau, ne pas rester seul, parce que évidemment, fin des années 60, début des années 70, l'agriculture biologique n'existait même pas. Et donc, mon beau-père est allé faire le tour de France, en réalité, pour prendre les premiers contacts, pour mener des recherches. Rien, il n'y avait pas grand-chose hein, à l'époque. Donc, il a fallu faire réseau, proposer à d'autres de travailler ensemble, etc. Et voilà, une période pas tout à fait facile. Et dans ce territoire particulièrement que vous connaissez bien, j'imagine, Nérufécois, là-bas, c'est un territoire vraiment rural, vraiment très agricole. Et donc, c'est une force pour l'agriculture. Voilà, ça devrait être une force, l'agriculture, là-bas, et chercher ce qu'on peut en faire et comment la valoriser. C'est une force parce qu'on peut faire de la qualité sur nos territoires, sur les terrains argilo-calcaires séchants en particulier. C'est comme pour les vignes, hein, on extrait la substantifique moelle du terroir. Et donc, c'est un potentiel et en même temps, c'est vrai que c'est difficile. Il faut se retrousser les manches, il faut être dynamique. On a une obligation à s'impliquer fortement pour faire émerger les projets et pour faire émerger les initiatives. C'est le témoignage de Dominique, c'est le témoignage aussi de l'écomusée et de l'Argentor, notre voisin. Voilà, donc faire sens, hein, porter le dialogue, toujours rester ouvert et disponible, c'est une gageure. Voilà, on peut peut-être passer, j'ai juste fait montrer quelques photos. Oui, l'idée, c'était de dire aussi qu'on n'est que de passage. Donc, l'objectif, c'est d'apporter notre pierre, mais que vraiment, on puisse envisager l'avenir avec une agriculture vivante et qui donne envie, quoi. Qui donne envie et transmettre. Alors là, ce sont nos enfants, hein, bien sûr, qu'on essaie d'impliquer, on essaie de leur donner des aspects, voilà, de montrer le bonheur de vivre en campagne, sur une ferme et tout ce que ça apporte. Ça brasse beaucoup hein, sur notre ferme, donc ils ont aussi ce plaisir de partager avec nous. Dans l'ouverture, la culture, etc. Et puis, on est pas mal sollicité aussi hein, par les organismes de formation, par les organismes de développement. Il y a aussi, il y a notamment un réalisateur, Jean-Paul Jaude, là, qui est venu faire un film pendant 3 ans. Alors, ça dure un peu, parce que comme il y a le Covid, il revient de plus en plus. Ça dure son film, je ne sais pas, il va peut-être faire 3 heures. Nous accueillons aussi des services civiques franco-allemands tous les ans, deux services civiques. On accueille de temps en temps des stagiaires, mais bon, c'est énergivore, donc on le fait de moins en moins. Mais voilà, c'était pour dire que ce qui est important maintenant, qu'on a construit un peu des choses, quoi, que ça, voilà, qu'on a eu l'énergie à un moment, en tout cas, de les construire, de les maintenir, mais aussi de témoigner, quoi. De témoigner, de diffuser. C'est comme dans une théière, hein, il faut arriver à diffuser. Si on veut maintenir une agriculture viable sur nos territoires, il faut donner envie. Voilà. Donc on peut passer là. Oui, pardon. Hein, je peux le faire. Oui, alors ça, c'était Louise en pleine fabrication de pain. Et puis, un de nos volontaires à qui on donne le goût aussi de toutes les activités qui se passent sur la ferme, mais aussi la restauration du bâti Là, on construisait un petit muret en pierre sèche, voilà. Des petites images de la boulangerie. Alors, je boulangeais au départ, à la mise en place, évidemment, de l'atelier boulange. Moi, je travaillais plutôt avec mon cerveau au départ, donc j'ai mis les mains dans la pâte à un moment. Et puis, maintenant, j'ai quand même l'aide d'une personne et demie sur la fabrication du pain. Mais je dois saluer surtout le travail de François, l'agriculteur principalement, qui a fait vraiment. On a travaillé tous les deux sur l'aspect variétal, sur l'aspect nutritionnel et organoleptique pour chercher des choses un peu différentes, valoriser le terroir, etc. Donc du grain au pain, comme tous les boulangers qui ont la chance de cultiver leur pain, leur blé, et d'aller jusqu'au bout du produit. C'est très valorisant, même si c'est aussi périlleux, parce qu'on peut se planter une année, ça peut être catastrophique, et donc on a aussi cette problématique. Alors, je vous parlais tout à l'heure à un moment, la nécessité de valoriser collectivement les productions de la ferme et des autres fermes qu'on avait embarquées dans l'histoire de produire des légumineuses. Les fermes bio qui s'étaient récemment installées dans les années 70-80. Et donc avec cette crise majeure liée aux importations de masse, mais aussi, il faut vous le dire, à un moment, il y a eu aussi du faux bio. Alors des organisations malhonnêtes qui faisaient faire du bio, de la bio tournante à des agriculteurs conventionnels. Le bio, la bio française s'est complètement effondrée. On était dans les années 80, et donc les lentilles, on avait des tonnes de lentilles, des tonnes de pois chiches qui nous restaient sur les bras pendant un an, deux ans. J'étais pas là, mais je fais comme si on y était. Et donc il a fallu trouver une solution, d'où la nécessité de se regrouper, de créer un groupement de producteurs d'aller vendre directement auprès des restaurateurs, auprès des épiceries, notamment auprès de Biocoop. Et nous avons été ferme de Chassagne, les fermes de Chassagne, nous avons été à l'initiative de la création de la filière légumes bio française qui n'existait pas à l'époque. Et ce qui a permis à d'autres coopératives, hein, d'autres groupements de s'animer dans cette aventure de réintroduction des légumineuses à graines. Donc l'objectif du groupement, il est fondamental en réalité. Si on veut maintenir des paysans sur un territoire, il nous semble que la première chose, c'est que les agriculteurs soient payés correctement pour leur travail. Et donc, c'est le point numéro un de notre groupement, c'est des prix justes, des prix équitables pour maintenir des fermes à taille humaine. Si on ne veut pas des déserts ruraux, des déserts agricoles, des déserts ruraux. Voilà, se regrouper pour offrir une gamme, pour évidemment s'entraider, limiter les risques, parce que si un agriculteur ne réussit pas bien une année, l'autre va compenser, etc. Diversifier les cultures, puisqu'on propose une gamme, eh bien on peut, dans les assolements, introduire des plantes en direction de l'alimentation humaine, de manière diversifiée. Donc c'est très intéressant en bio de pouvoir faire ça. Et puis c'est de nouveau, c'est valorisant aussi, parce que je pense que ça répond vraiment aux exigences de notre société actuellement, de se tourner un peu plus aussi vers le végétal. Donc c'était un peu précurseur, on commence à avoir le vent en poupe un petit peu. La réintroduction des légumineuses, on en a parlé. Donc nous sommes actuellement, nous étions un groupement de 5 producteurs, nous sommes maintenant une vingtaine. On a changé de statut juridique, on a fait et on a un projet d'installation sur un nouveau site, un nouveau projet qui devrait permettre de nous plus encore de s'investir dans le développement local, de créer des emplois, de maintenir des fermes et d'orienter progressivement, d'aider les agriculteurs à se convertir à la bio, à prendre confiance dans ce mode d'agriculture qui est intéressant pour limiter les pesticides. Voilà. Donc, on a quand même un effet d'influenceur localement. C'est vrai que c'est une démarche exigeante. On se démarque parce qu'on oriente vraiment notre travail sur la qualité depuis le début. C'est comme les chocolats. C'est moins appétissant que les chocolats, peut-être, mais... Mais c'est vraiment comme les chocolats. Si on axe sur la qualité, c'est le point fort qu'il faut mettre en avant, surtout sur des cultures spécialisées comme celle-là. Et sur le caractère assez innovant de ce petit groupement. À notre échelle, on est les seuls en France à exister. C'est-à-dire, soit ce sont des grosses coopératives, soit ce sont des initiatives individuelles. Mais c'est cette taille de groupement intermédiaire qui va du grain, qui va de la collecte jusqu'à la vente, puisque c'est ça que nous faisons, ça n'existe pas ailleurs. Donc on collecte. Légumineuses à graines, on en a 7, hein, lentilles, pois chiches, pois cassés, flageolets, haricots rouges, blancs, noirs, les céréales qui sont transformées en farine, donc les blés plutôt modernes, adaptés à la bio, les blés anciens, le petit épeautre, le grand épeautre, le sarrasin, le maïs population, hein, on fait beaucoup de recherches variétales, donc on développe vraiment, on est très impliqué dans la biodiversité cultivée. Et puis les huiles pour valoriser aussi les oléagineux, le tournesol de variété ancienne, la cameline qui est une crucifère historique, le colza récemment, etc. Voilà. Donc nous vendons sur toute la France, on a 500 clients environ, 500 clients avec deux gros clients qui sont Biocoop. Historiquement on fournissait toutes les Biocoop de France. Heureusement, ils se sont développés et heureusement, d'autres COP ont pris le relais et approvisionnent désormais également Biocoop. Mais on travaille aussi avec Ethicable. Ethicable qui est une SCOP très engagée dans le commerce équitable nord-sud et qui a développé tout un panel de produits dans les grandes surfaces. C'est le seul client que nous ayons en lien avec la grande surface, mais ceci étant, c'est vraiment un client avec lequel on a un partenariat hyper intéressant. Ils viennent d'inaugurer une chocolaterie, là j'en parlais tout à l'heure, et voilà, ce sont les deux gros clients qui nous permettent, en particulier Ethicable, de développer, de continuer notre recherche en termes de biodiversité cultivée et de proposer des produits innovants auprès d'eux. Voilà, donc une démarche aussi d'innovation parallèle qui nous tient dans toute cette relation avec les clients. Il faudrait aussi qu'on ait le temps d'aller un peu plus voir les restaurateurs. Alors, on y mange, mais on se fond dans la masse. On ne dit pas qui on est. Mais là, je trouverais... c'est un de nos axes de développement prochain parce que c'est chouette, en fait, de pouvoir produire localement et ensuite, grâce à des restaurants gastronomiques comme les vôtres ou à Tusson le Compostelle ou bien qui travaillent vraiment le produit frais, là, on retrouve du sens réellement à l'agriculture et à l'artisanat, au métier de bouche et à la relocalisation globalement de toutes les activités. Voilà, donc... On œuvre par là vraiment à la redynamisation du territoire. Les élus sont peu présents. Ils nous écoutent beaucoup. Ils trouvent que c'est formidable ce qu'on fait, mais ils ont du mal à s'engager. On peut passer. Alors, c'est juste des petites images. Hein. Alors, il faut peut-être que je mette comme ça. Parce que ça... ce sont juste quelques petites images de ce que ça donne, la diversité dans les champs et du coup dans les assiettes. C'est aussi joli, quoi. C'est aussi joli et ça vaut la peine. Donc voilà, on vend des petits paquets. Peut-être que vous les avez déjà vus. Alors, on avait démarré avec des sachets, mais très rapidement, on est passé à des petites boîtes qui restent des boîtes cartonnées. On tient beaucoup à ça parce qu'on ne veut pas passer au plastique. Mais ce n'est pas facile de maintenir le cap parce que ça nécessite... Enfin, voilà, on ne peut pas industrialiser l'emballage, enfin, le conditionnement, voilà, bon. La question des emballages est une question qu'il faudrait développer avec créativité et territoire. Bon, quelques photos hein, pour dire que, voilà, il a fallu s'organiser, se structurer et on est encore en train. On a un gros projet qui coûte très cher, mais qui est nécessaire à la pérennité du groupement. Donc, voilà. Alors, parallèlement, bon, je vous verrai si vous avez des questions autour du groupement. Très rapidement, autour du marché à la ferme, bah, c'était un peu subversif. Hein. On s'est dit, voilà, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'endroit où on peut trouver en un seul lieu des produits bio, locaux. Et on a envie, en fait, en tant que producteur, d'être en lien direct avec les consommateurs. On a envie d'un lieu qui vive, on a envie de marcher. Moi, je venais de Provence et j'avais envie de marchés qui vivent, voilà, de dynamique d'échange. Et donc, on a créé ce petit rendez-vous mensuel qui est bimensuel l'été avec une restauration champêtre et puis des groupes de musique parce que la culture vivante, c'est aussi important, l'agriculture vivante, mais la culture vivante. Et puis, on essaie vraiment on a souvent des thématiques d'intervention. Bon, depuis le Covid, ça s'est vraiment ralenti, mais des thématiques d'intervention pour bien reconnecter les gens à la saisonnalité, à qu'est-ce que c'est que le travail de la terre, mais qu'est-ce que c'est aussi que les activités rurales de manière générale. Donc, voilà, bon, c'est une vingtaine de producteurs. On est... rien d'autre à dire, vous faire passer quelques petites images, voilà, pour donner envie, éventuellement, de venir. le côté convivial aussi, bon, on s'installe sous les pommiers, l'été c'est sympa. Voilà, puis toujours le volet artistique, hein, on avait aussi, pendant tout un moment, on faisait venir des artistes plasticiens ou des... Voilà. Bon, alors c'est... J'en ai fini globalement sur la présentation, mais ce que je voulais juste finir, et c'est ce sur quoi j'ai un peu insisté dans les différentes interventions, mais je suis très sensible à la question de l'humain, parce que je pense que dans chacun des territoires, dès qu'on parle de souveraineté ou qu'on parle de créativité ou de dynamique, ça repose beaucoup sur des hommes et des femmes. Et en fait, souvent, c'est lacunaire. Il nous manque des hommes et des femmes qui ont envie vraiment de s'investir, de porter des projets, d'être bien là où ils sont et de donner envie d'y vivre, de donner envie de se rencontrer. Et il n'y a que comme ça que dans des territoires ruraux comme les nôtres et cruellement ruraux, on réussira à booster, à tirer vers le haut nos territoires. Voilà. Donc, je suis très sensible à la passation, à la transmissibilité des choses. Si vous avez des questions particulières.
Merci beaucoup.
Juste une prolongation,
ouais.
Parce que comme on a des étudiants en aménagement du territoire, si j'ai bien compris, hein, c'est aménagement rural. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi ton implication là, dans cette zone, qui est une zone un peu la diagonale du vide, on a dit certains,
ouais, c'est bon,
Civrésien, Ruffécois, Mélois, et la démarche avec le Diwa.
Alors, fort de ce constat, donc je suis aussi présidente du, enfin j'ai été élue, hein, bien sûr à Villefagnan, mais j'ai eu aussi des enfants, donc j'ai un peu arrêté moi. Provisoirement mes investissements extérieurs parce qu'il faut quand on organise des choses comme ça, il faut être hyper pro et donc il faut être aussi hyper disponible professionnellement. Donc je suis cependant présidente d'une association qui s'appelle Les Îles, initiative locale, environnementale et solidaire en Poitou-Charentes. Notre challenge, hein, c'est justement de recréer de l'activité, du développement, de la dynamique dans ce territoire situé dans la diagonale du vide, voilà, Nord-Charente, Sud-Vienne, Sud de Sèvres, et de faire corps et de donner envie aux acteurs principaux et aux élus. De s'emparer de leur territoire et de montrer qu'en fait, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais il faut s'en saisir. Et donc, notre idée... bon, on a regardé un petit peu les initiatives. Moi, par mon ancien travail, puisque je suis agronome, ingénieur agronome, j'ai eu l'occasion d'être en relation avec la Biovallée dans le Diwa, donc complètement à l'opposé, là, dans la Drôme. et de côtoyer des acteurs très investis dans le développement de leur territoire, mais alors de manière hyper holistique. Donc ils abordent tous les sujets et ils abordent de front, quoi. Et ce sont des élus en général. Donc c'était un territoire, je reviens au début, mais c'était un territoire un peu comme le nôtre, avec une rivière, donc on a la Charente qui traverse tous les territoires, avec une zone rurale désertifiée, avec des agriculteurs sur des petits territoires productifs, donc des petites agricultures, des petites ventes directes, des recherches d'alternatives également, un territoire potentiellement aussi attractif au niveau touristique, mais qui était pauvre. Voilà, on était proche de la vallée du Rhône, mais un territoire désertifié comme le nôtre. Et en fait, les élus qui sont arrivés, qui ont investi le territoire, ce sont des néo-ruraux qui venaient de Paris, qui venaient de Lyon, qui se sont installés sur cette zone charmante et qui ont relevé le défi. Et ils ont osé, tout simplement. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on veut ? Ils se sont projetés à 20 ans, 30 ans, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on veut réellement sur ce territoire dans 20 ans, 30 ans ? On est déjà dans les 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils ont anticipé l'évolution qu'ils souhaitaient donner à leur territoire. Et donc, ils ont vraiment pris tous les sujets à bras-le-corps. Ils ont commencé par la qualité de l'eau, mais tout s'est décliné. L'agriculture, le tourisme, l'économie, l'environnement, etc. Et donc, ils ont, voilà, la mobilité, y compris la mobilité dans ces territoires ruraux. Et donc, on s'est dit, mais c'est là absolument qu'il faut amener nos élus. Et il faut que la mayonnaise prenne, que ça fasse des petites étincelles, que cela leur donne envie. Entre acteurs impliqués du territoire et élus, les emmener, créer un groupe moteur qui fasse émerger des projets progressivement et en s'inspirant de ce qui existe. Voilà, donc on a amené une petite délégation déjà. On devait amener une deuxième délégation de 40-50 personnes dans un gros bus, mais le Covid est arrivé, ou la Covid. Et donc le projet, pour l'instant, est un stand-by, le temps que ce soit plus facile d'aller rendre visite à nos amis du DIWA. Est-ce que ça te convient ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser peut-être aux étudiants présents. Est-ce que vous connaissez le dispositif CADET qui couvre votre zone, finalement ? Non. Il faudra que vous vous intéressiez à ça, parce que je pense qu'il faut stimuler le CADET. Voilà.
Stimulons le CADET.
Et on n'en saura pas plus, Jackie.
Oui, c'est ça.
On reste sur notre fin.
Pour l'instant, on n'en dira pas plus, non. Bon. CADET, ne soyons pas... Elliptique Cadet, c'est un dispositif que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place pour des zones comme celle-ci ou pour des zones comme Châtellerault dans le domaine industriel pour justement essayer de globaliser, d'avoir des interventions un peu plus globales parce que vous voyez bien que la question qui se pose, c'est que souvent de fois on a des actions en silo et au lieu d'avoir une action coordonnée globale, on a des actions en silo qui ne répondent pas du tout aux questions que soulève Céline. Et donc la région a imaginé un dispositif dit Cadet. Le problème, c'est que ce dispositif, faut qu'on le fasse vivre aussi. Donc c'est pour ça que je posais la question. Visiblement, il est peu connu et donc c'est déjà un signe qui est peu encourageant. Donc il faut le réveiller. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, c'était la question de CADET. Comme un cadet. Et il y a une personne, oui, qui est référente du cadet que vous pourriez contacter pour le lui indiquer que vous êtes partie prenante et intéressée. Je crois que tu le connais, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Donc, vous pourrez échanger vos informations. Est-ce qu'il y a des questions, comme disait Laurent, ou des remarques Gilbert.
Alors, je vais quand même aller à contresens de ce qui a été dit sur la diagonale du vide. Je connais un client qui s'appelle Marché Équitable, qui achète les produits de la ferme de la Chassagne.
Ah mais oui, C'est un... Non, mais quand j'ai vu Marché Équitable, oui, bien sûr, on a... Non, mais dans les 500 clients, il y a quand même des clients locaux, hein. Et après, voilà, non, il y a pas mal de clients locaux. Donc, bien sûr, quand j'ai vu Marché Équitable, je me suis dit, ah, viens chez nous.
Des questions, des remarques?
Juste pour dire aussi que dispositif cadet, hein, mais c'est vrai qu'on est obligé sur des petites tailles de projets comme ça, hein, d'être hyper polyvalent et on tire les tiroirs, plusieurs tiroirs, et ce sont des savoir-faire différents, hein, on va de la gestion d'une COP jusqu'au commercial, à la gestion administrative. Moi, je suis directrice, hein, du coup, de ce groupement. Mais ouais, ça fait appel à plusieurs compétences.
Prochain marché,
le 1er octobre, pour ceux qui ne sont pas loin là. Mais pour ceux qui viennent de loin aussi, nous, on a des Bordelais qui viennent au marché. Il y a des Angoumoisins. Alors, il y a des producteurs de la Vienne qui viennent du Moment Rayonnais. On a alors, elle est plutôt artisane, hein, mais vous la connaissez peut-être. C'est chocolat, etc. Elle apporte du chocolat bio. Elle travaille très bien et a fait des glaces délicieuses. Valérie Godler. Voilà.